Grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable.
Bienvenue dans l'émission Le Grain de Sable sur Radio Canus 102.2. Désolée, on a notre générique qui sautille un petit peu, donc on essayera d'arranger ça pour la prochaine fois. Alors aujourd'hui, nous recevons Laurent Dalbos, qui est responsable du plaidoyer à Forum Réfugiés COSI. Donc,
bonjour.
Bonsoir. Et pour parler notamment de toute l'actualité qu'il y a avec le projet de loi sur une immigration maîtrisée et un droit d'asile renforcé, donc d'où ça vient, comment il faut l'interpréter, et aussi quelle est la position de Forum Réfugiés sur ce projet de loi, quelles sont ses avancées s'il y en a, et puis aussi les reculs qu'on peut y voir. Alors je propose qu'on commence déjà par présenter Forum Réfugiés COSI, qui fait de nombreuses choses. Là, on parlait du plaidoyer, mais il y a également tout un rôle d'accueil et d'accompagnement des migrants.
Oui, alors effectivement, c'est même le cœur de l'activité de Forum Réfugiés, de gérer des dispositifs d'accueil des personnes qui fuient les persécutions et qui recherchent une protection, donc des personnes qui sont demandeurs d'asile. Donc on gère à la fois des dispositifs de premier accueil, c'est-à-dire dispositifs dans lesquels doivent se présenter les demandeurs d'asile dès qu'ils arrivent sur le territoire. Donc on gère ce qu'on appelle les plateformes d'accueil pour demandeurs d'asile. On en gère 6 actuellement en France. L'année dernière, ça représentait l'accueil de un peu plus de 20 000 demandeurs d'asile sur l'ensemble de ces dispositifs de premier accueil de Forum Réfugiés.
Donc ça, c'est pas dans la France entière, c'est uniquement ce que fait Forum Réfugiés.
C'est uniquement ce que fait Forum Réfugiés. Donc c'est pour donner une idée aussi de la taille des dispositifs qu'on gère. Peut-être, c'est vrai que j'ai pas précisé avant, c'est vrai qu'on... Donc Forum Réfugiés s'était fondé en 1982 sur Lyon, donc à la base c'est une association lyonnaise qui gérait des dispositifs localement, qui était issue de plusieurs... du travail d'autres associations qui ont décidé un jour de créer une autre association qui serait spécialisée dans cette question des personnes qui fuient les persécutions. D'autres associations aujourd'hui très connues, type Secours Catholique, la CIMA, des associations comme ça, qui ont décidé de fonder une association qui à l'époque s'appelait le CRARDA, le Comité Rhodanien d'Accueil des Réfugiés et des Demandeurs d'Asile, qui est devenu plus tard Forum Réfugiés et encore plus tard Forum Réfugiés COSI, puisqu'aujourd'hui on a fusionné depuis 2012 avec une autre association qui s'appelle COSI. Donc aujourd'hui c'est Forum Réfugiés COSI. Et donc pour revenir à notre activité aujourd'hui, donc aujourd'hui effectivement on n'est plus une association à dimension locale. On est une association qui a des activités sur l'ensemble de la France, pour être plus précis sur la moitié sud de la France, de l'Auvergne, l'Occitanie, région PACA, région Rhône-Alpes évidemment. Donc c'est dans toutes ces régions, c'est dans une quinzaine de départements. Donc on gère, comme je disais, des dispositifs de premier accueil.
Donc ce premier accueil, c'est pour demander...
C'est la porte d'entrée dans la procédure d'asile. En fait.
Voilà, pour demander l'asile, c'est pas forcément pour avoir un hébergement ou pour...
Non, après tout ce qui est hébergement, etc., c'est l'État qui gère ça. Donc quelqu'un qui aujourd'hui veut demander l'asile à Lyon, par exemple, la première étape, le premier point où il doit se présenter, c'est la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile de Forum Réfugiés. Et ensuite, Forum Réfugiés va donner une convocation à cette personne qui devra se rendre ensuite en préfecture auprès des services de l'État. Et c'est les services de l'État qui vont enregistrer sa demande, enfin l'enregistrer en tant que demandeur d'asile et déterminer qu'est-ce qu'il a droit en termes de conditions d'accueil et notamment d'hébergement. Et donc c'est la deuxième partie de nos dispositifs, c'est de gérer des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile. Donc il y a plein de lieux aujourd'hui, ça s'est multiplié, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure dans les enjeux. Il y a de plus en plus de types différents d'hébergement pour demandeurs d'asile, au point où ça devient assez illisible, y compris pour des personnes qui travaillent dans ce secteur.
Imaginons, pour les demandeurs d'asile, c'est compliqué.
Pour les demandeurs d'asile, c'est compliqué aussi.
Parce que c'est pas l'État, enfin la préfecture en l'occurrence, une commission à la préfecture qui attribue par exemple une place en... en centre, en CADA ou
Alors c'est en fait la personne pour du coup on va reprendre le parcours. Du coup la personne se présente en plateforme gérée par des associations, Forum Réfugiés dans 6 régions et puis d'autres associations dans d'autres régions. Et ensuite la personne est convoquée auprès de ce qu'on appelle le guichet unique pour demandeurs d'asile. Le guichet unique pour demandeurs d'asile, c'est en préfecture. On dit guichet unique, ça réunit deux services de l'État, la préfecture, qui va déterminer dans un premier temps, qui va donner à la personne une attestation de demande d'asile pour qu'elle puisse se maintenir sur le territoire, qui va lui remettre un formulaire de demande d'asile pour qu'elle envoie ensuite sa demande d'asile. Sauf pour les personnes qui sont sous procédure Dublin, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, parce que c'est un gros enjeu aujourd'hui autour de la demande d'asile. Donc elle va déterminer aussi la préfecture, c'est à ce moment-là qu'on va déterminer si on place une personne en procédure Dublin, ou si on considère que la France est responsable, et dans ce cas on remet à la personne un formulaire demande d'asile. Ensuite, quel que soit le type de procédure qui sera appliqué à la personne, elle passe dans la foulée, dans la même journée, auprès d'un autre bureau d'un service de l'État qui s'appelle l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui va déterminer les conditions matérielles d'accueil, ce qu'on appelle les conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire quel sera le montant de l'allocation pour demandeur d'asile qui va être distribué à la personne, en fonction de la composition de son ménage globalement, et qui va déterminer si oui ou non on l'oriente vers un hébergement. Ça sera déterminé principalement sur les critères de vulnérabilité du ménage du demandeur, c'est-à-dire s'il y a une femme enceinte, une famille avec enfants, etc., ils seront orientés prioritairement vers l'hébergement. Ce ne sera pas en lien avec le fond de la demande d'asile, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, on n'a pas encore regardé si la personne a ou pas des motifs de persécution dans son pays qui sont valables et qui peuvent lui permettre d'obtenir une protection de la France. À ce stade-là, il n'y a pas encore de regard sur le dossier. Et donc, l'OFI va déterminer à ce moment-là si la personne, on l'oriente vers un hébergement ou pas. Aujourd'hui, c'est une des grosses problématiques, hein, puisqu'aujourd'hui, il y a environ un demandeur d'asile sur deux qui n'est pas orienté vers l'hébergement.
Bah donc, il va où ?
Donc, il va là où il peut, c'est-à-dire soit il va chez des compatriotes, des gens qui vont l'héberger, des réseaux divers de connaissances qu'il peut avoir, ce qui concerne une partie des personnes. Et ceux qui n'ont pas ces dispositifs-là, soit ils se tournent souvent vers l'urgence sociale de droit commun, c'est-à-dire le 115, SAMU social, qui lui-même est engorgé. Donc, du coup, souvent il n'y a pas de place non plus dans ce type de dispositif, donc ils se retrouvent à la rue pour une partie de ces personnes. Ce qui, c'est quelque chose aussi d'important à prendre en compte, c'est aujourd'hui on parle de campement de personnes. Pour les auditeurs de Lyon, on a parlé longtemps des Albanais. Qui étaient par exemple près de la Part-Dieu, sur l'esplanade Mandela, etc. Et puis on les présente un peu comme des personnes qui occupent illégalement un terrain, etc. En réalité, avant ça, il y a une défaillance de l'État qui n'a pas respecté l'obligation qui est celle de l'État de fournir un hébergement aux demandeurs d'asile, puisqu'une partie de ces personnes sont des personnes en cours de demandeurs d'asile, donc qui sont éligibles à ces conditions matérielles d'accueil, mais qui n'ont pas été orientées vers
un
hébergement.
Donc il y a bien une obligation d'État à fournir normalement un logement à tout demandeur d'asile avant même effectivement la conclusion de son dossier. Donc il y a deux choses, il y a l'hébergement, enfin un lieu d'accueil, d'hébergement, et cette fameuse allocation.
Voilà, et si l'État, c'est ce qui se passe dans certains États européens, parce que ça, tout ça c'est du droit européen, c'est des choses qui sont imposées par le droit européen, on peut imaginer qu'un État n'a pas les capacités d'hébergement suffisantes, mais dans ce cas-là, l'allocation devrait compenser ce manque d'hébergement, et donc du coup permettre à la personne de se loger, de se payer un hôtel ou autre. Aujourd'hui, il y a cette double problématique d'un manque de place et d'une allocation qui est insuffisante, et c'est pas Forum Réfugiés qui le dit, pour le coup c'est le Conseil d'État qui a annulé un décret qui fixait le montant de l'allocation l'année dernière. Le gouvernement a repris un nouveau décret avec un nouveau montant qui vient d'être de nouveau annulé par le Conseil d'État en début d'année, qui a jugé que c'était insuffisant. Donc là, le gouvernement doit refixer un nouveau montant, et ce que dit le Conseil d'État dans sa décision, c'est de dire qu'il faut fixer un montant qui permet aux personnes d'être hébergées sur le marché locatif privé. Donc, c'est-à-dire, globalement, il faudrait un montant qui correspond à peu près aux minima sociaux français du RSA ou ce type de minima sociaux. Or, aujourd'hui, pour un homme isolé seul, le montant de l'allocation, c'est 350 euros par mois. pour à la fois se nourrir et s'héberger. Donc, ce qui permet pas de, enfin, ce montant permet pas de d'assurer ces deux enjeux un peu vitaux. Donc, du coup, ça fait que beaucoup de personnes se retrouvent en étant demandeurs d'asile sans hébergement. À ce moment-là, ces personnes-là ont la possibilité de revenir vers cette plateforme d'accueil dont je vous ai parlé au début, les dispositifs de premier accueil. Ils assurent aussi ce rôle, ces plateformes d'accueil pour demandeurs d'asile assurent aussi ce rôle d'accompagnement social, administratif, juridique pour les personnes qui n'ont pas été orientées vers l'hébergement. Donc à Forum Réfugiés, on reçoit aussi et on accompagne beaucoup de personnes qui ne sont pas dans l'hébergement, mais qui viennent vers nous pour avoir une domiciliation, donc pour recevoir leur courrier, leur convocation, etc. Pour avoir aussi un accompagnement vers l'ouverture de leurs droits à la santé, vers la scolarisation des enfants, etc., etc. Donc du coup, il y a quand même un dispositif d'accompagnement qui existe, mais qui comble pas cette nécessité pour les personnes d'être hébergées, d'avoir un toit.
Parce que dans effectivement les hébergements spécifiques, type CADA, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou les autres, parce que maintenant il y a plein de sigles, il y a quand même en plus de l'hébergement tout un accompagnement justement dans la démarche administrative.
Oui, c'est ça, effectivement, pour les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, CADA et autres dispositifs de ce type-là, on parle toujours d'hébergement accompagné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas de l'hébergement sec, c'est de l'hébergement avec des travailleurs sociaux, des juristes, etc., qui vont...
assistants sociaux.
Voilà, différents types de travailleurs sociaux, il y a aussi des agents de maintenance, enfin voilà, il y a tout un personnel qui est là dans le centre et qui permet d'accompagner ces personnes dans leur demande d'asile et... c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est aussi un point important de défendu par Forum Réfugiés de développer cet hébergement et de permettre à tout le monde de disposer d'un hébergement accompagné, parce qu'en réalité, si les personnes n'ont pas ça, elles sont pas dans les conditions adéquates pour ensuite faire valoir leur situation auprès des instances françaises. Donc on risque de passer à côté de besoins de protection, parce que quand des personnes sont à la rue dans un besoin un peu immédiat de trouver un hébergement, savoir où dormir, savoir quoi manger, quand elles se retrouvent à l'entretien asile, elles sont pas dans leur préoccupation de comment on va pouvoir retranscrire notre récit. Et donc il y a le risque avec ce manque d'hébergement et d'accompagnement du coup de passer à côté de besoin de protection, ce qui est la principale faille qui peut exister dans un système d'asile. On en reparlera un petit peu tout à l'heure dans la question du projet de loi où on parle de faire un système d'asile efficace. Aujourd'hui, selon nous, un système d'asile efficace, c'est un système d'asile qui ne passe pas à côté de besoin de protection, c'est-à-dire qui permet de bien identifier tous les besoins de protection. Et pour ça il y a plusieurs paramètres à mettre sur le enjeu et notamment la question de l'hébergement accompagné. Donc pour revenir sur l'activité de Forum Réfugiés, du coup Forum Réfugiés gère à peu près un peu plus de 2200 places à peu près d'hébergement accompagné sur toute la France, là aussi dans une quinzaine de départements. Et ensuite Forum Réfugiés, donc ça permet aussi de continuer un peu à décrire ce parcours des personnes. Quand les personnes ont une décision de protection et qu'elles sont reconnues comme nécessitant une protection de la France, donc reconnues réfugiées pour la plupart d'entre elles, ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui est un autre statut, mais qui ces deux statuts de protection attribués par la France, dans ce cas-là, ces personnes peuvent bénéficier là aussi de dispositifs qui sont des dispositifs pour l'intégration. Donc Forum Réfugiés agit aussi dans ce domaine-là pour accompagner les personnes vers l'intégration. Donc là, l'enjeu, c'est plus d'accompagner les personnes pendant leur demande d'asile, dans une situation provisoire, temporaire, etc., mais c'est de permettre aux personnes de s'intégrer durablement dans la société française, notamment à travers la recherche d'un emploi, la recherche d'un logement, des formations, etc. Donc on a pour ça on gère des lieux d'hébergement qui s'appellent les centres provisoires d'hébergement pour ces personnes qui sont... Alors il y a très peu de places, donc c'est notamment les personnes les plus vulnérables en général qui se retrouvent dans ces centres d'hébergement dédiés aux réfugiés. Et on gère aussi des dispositifs d'accompagnement social sans hébergement, puisque là les personnes qui ont le statut, qui ont une protection, ont les mêmes droits que les Français en termes d'accès aux droits sociaux, etc. Donc c'est des personnes qui souvent peuvent aussi trouver des solutions d'hébergement. En tout cas là ils ont l'aide sociale suffisante pour être hébergés, mais ils ont besoin d'un accompagnement parce que il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte, notamment le fait que ces personnes souvent parlent pas encore bien français, donc pour trouver un emploi c'est pas évident, des personnes qui viennent de pays dans lesquels on reconnaît pas forcément les diplômes ni les compétences, donc il doit y avoir tout un travail de d'état des lieux un petit peu avec la personne, de diagnostic, quelles sont vos compétences, vers quoi on peut vous orienter, quels sont en face les besoins de main d'œuvre, quels sont Donc il y a tout ce travail de diagnostic avec les personnes, de relations avec les employeurs, etc.
Donc ça se fait aussi avec des relations avec les services de l'État et avec donc des entreprises ou des fédérations d'entreprises.
C'est ça, oui, ça se fait du coup en travail avec les employeurs. On travaille aussi sur des dispositifs de formation, c'est-à-dire qu'on accompagne les personnes et on monte avec des organismes de formation, des formations qui sont adaptées au projet professionnel des personnes. C'est-à-dire quelqu'un qui veut travailler dans la grande distribution, il aura droit à un socle de formation fourni par l'État, par l'Office, cet Office français de l'immigration et de l'intégration dont on parlait tout à l'heure, qui a aussi pour mandat d'accompagner les gens dans l'intégration, donc va fournir un socle d'heures en français, mais qui généralement ne permet pas aux personnes de s'inscrire dans l'emploi, parce que ce qu'ils vont apprendre, c'est les bases du français de façon assez théorique, même parfois de façon, on va apprendre les grands auteurs français, enfin je sais pas, des choses qui sont ou les valeurs de la République ou des choses comme ça, mais quand on se retrouve face à un employeur, ce que veut l'employeur, c'est quelqu'un qui est en capacité de travailler rapidement dans un contexte de travail. Donc nous, on monte aussi à Forum Réfugiés avec des partenaires, des formations qu'on appelle du français langue étrangère métier, donc du FLE métier. Par exemple, sur la grande distribution, ça va être d'acquérir les vocabulaires de base pour travailler dans la grande distribution en termes de sécurité, de communication avec les collègues, etc. Donc c'est des formations ciblées pour accéder à l'emploi. Et on travaille également sur le volet logement. Le volet logement, c'est tout un travail qui est fait notamment avec les bailleurs sociaux pour permettre d'avoir des logements qui sont attribués chaque année à des réfugiés, puisqu'après tout ça est lié, le logement facilite l'emploi facilite le logement, enfin voilà, du coup on travaille sur ces deux volets en parallèle.
À partir du moment où la personne a le statut de réfugié, elle a le droit, enfin elle peut déposer une demande de logement social comme tout le monde en fait.
C'est ça, mais du coup c'est vrai qu'on met en place, on essaye de sensibiliser les bailleurs sociaux aussi sur les besoins spécifiques que peuvent avoir ces personnes. Et puis pour essayer aussi d'accélérer cette entrée dans le logement social pour certaines de ces personnes. Et puis donc ça nous a permis l'année dernière par exemple dans le Rhône, avec un programme qu'on a dans le Rhône qui s'appelle Accélère, un programme d'intégration qui nous a permis d'accompagner les personnes vers la signature d'à peu près 400 baux, donc en bail direct, des personnes qui du coup signent leur bail et puis ensuite accèdent à un logement. Sachant que dans un bail il y a plusieurs personnes aussi, donc le nombre de personnes bénéficiaires de tout ça est encore plus important. Voilà sur cet aspect un peu des activités de Forum Réfugiés dans le parcours du demandeur d'asile. On est aussi présent dans une autre activité qui est un peu différente, c'est la présence en centre de rétention administrative. Donc les centres de rétention administrative, c'est les lieux où sont enfermés les étrangers qui ont été arrêtés en situation irrégulière. Ils sont enfermés dans ces lieux dans l'attente de la mise en œuvre de cet éloignement par l'État français.
En gros, c'est l'expulsion.
C'est ça. Quand je parle d'éloignement, c'est parce qu'en réalité, l'éloignement, c'est le terme un peu plus générique. L'expulsion, ça concerne une mesure juridique qui s'appelle l'expulsion. Sinon, il y a des expulsions, des obligations de quitter le territoire français. Voilà, il y a plusieurs types de. Mais effectivement, qu'est-ce que communément on appelle des mesures d'expulsion. Donc, dans ces centres, qui sont des centres gérés par l'État, par la police, etc., il y a dans chacun de ces centres de rétention en France une présence d'une association pour accompagner les personnes dans l'exercice de leurs droits. Donc, on aide les personnes à faire leur recours, parce qu'ils ont des possibilités de recours dans ces dispositifs-là. Et puis, on les accompagne un peu dans toutes ces procédures juridiques complexes qu'ils doivent, ou auxquelles ils ont droit, en tout cas, pendant leur passage en centre de rétention. Là aussi, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est un enjeu important du projet de loi aussi, ce volet de rétention. Donc, Forum Réfugiés est une des 5 associations en France métropolitaine qui est présente en centre de rétention, là aussi, dans une zone assez... Donc, on est présent à Lyon, à Marseille, à Nice... Et puis à Perpignan, Sète, Nîmes. Donc voilà, sur des centres de rétention un peu dans toute la moitié sud de la France.
Quand tu parles de recours au niveau du centre de rétention, il ne s'agit pas du recours contre, par exemple, le refus du statut de réfugié. Hein, c'est le recours contre la détention.
Oui, voilà. En fait, les personnes qui sont en centre de rétention... jusqu'à aujourd'hui en tout cas, parce que là aussi le projet de loi amène un certain durcissement à ce niveau-là qui pourrait amener à ce que des personnes qui sont encore dans une phase de recours dans leur demande d'asile puissent se retrouver en centre de rétention. Mais actuellement, le droit aujourd'hui implique que toutes les personnes, pendant toute leur procédure d'asile, sont en situation régulière sur le territoire. Donc elles peuvent pas être placées en centre de rétention, le centre de rétention étant pour les personnes en situation irrégulière. Donc soit des personnes qui ont fait une demande d'asile et qui ont vu cette demande d'asile rejetée, soit des personnes qui ne s'inscrivent pas dans la demande d'asile, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui font la demande d'asile parce qu'ils demandent cette protection, et d'autres personnes qui viennent chercher du travail ou autre, et puis qui du coup se trouvent soit avec un visa qui expire, soit une entrée irrégulière sur le territoire, et puis se font arrêter, et du coup se font placer en centre de rétention pour être éloignés. Donc ça, c'est cette activité en centre de rétention. Et pour terminer sur la présentation de Forum Réfugiés, on a également une activité, un centre de santé mentale sur Lyon, qui est un centre de santé mentale dédié à l'accompagnement des personnes victimes de traumatismes liés à l'exil. Donc c'est un centre qui est spécialisé dans l'accompagnement des migrants qui ont subi des traumatismes, soit dans leur pays d'origine, qui explique leur départ, soit pendant le parcours migratoire. On en entend beaucoup parler, tout ce qui se passe en Libye, traversée de la Méditerranée, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec un besoin de soutien, et d'un soutien spécialisé, c'est-à-dire avec des personnels qui à la fois connaissent précisément ces symptômes-là et puis qui savent comment y répondre, et aussi avec des aspects parfois très logistiques d'interprétariat, etc. Et puis de savoir travailler en situation interculturelle, c'est-à-dire avec des personnes qui n'ont jamais connu ce type de service de soutien psychologique ou autre. Donc on a un centre de santé mentale à Villeurbanne qui est spécialisé dans cet accompagnement, qui malheureusement est un peu sous-dimensionné, parce qu'il y a un besoin qui est énorme. Il y a seulement dans toute la France, il y a une dizaine de centres de ce type-là seulement, donc un besoin extrêmement important. Mais donc c'est une activité aussi de Forum Réfugiés une activité opérationnelle de Forum Réfugiés. Et on a aussi un volet international dans les activités de Forum Réfugiés, c'est-à-dire qu'on on pilote ou on mène des projets dans des pays d'origine ou des pays de passage des personnes qui arrivent ici. Notamment, on était sur un projet en République démocratique du Congo, qui est un projet de soutien à des organisations de la société civile en République démocratique du Congo qui travaillent sur l'accompagnement auprès de la justice des victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Donc on avait un projet de soutien et d'accompagnement de ces organisations-là. Et là, aujourd'hui, donc on a ça, et on a aussi un projet au Niger. Donc là, avec des salariés de Forum Réfugiés qui sont au Niger et qui ont pour mission là-bas de travailler sur l'identification de besoins de protection de personnes qui sont au Niger en vue de permettre pour ces personnes une arrivée par voie légale en France ou dans d'autres pays européens sans passer par la Libye, la Méditerranée, etc. Donc d'aller un peu au-devant des besoins de protection pour permettre ces arrivées légales de personnes qui fuient les persécutions et qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Ça, c'est toutes les activités de Forum Réfugiés. Aujourd'hui, ça représente un peu plus de 300 salariés.
Avec des métiers très différents, en fait.
Des métiers très différents, médecin, voilà. Voilà, principalement des travailleurs sociaux quand même, hein, le cœur des métiers de Forum Réfugiés, c'est ça. J'ai pas cité tout à l'heure aussi, on a une petite activité auprès des mineurs non accompagnés aussi sur Lyon. Du coup voilà, 300 salariés, à peu près autant de bénévoles. Et
les mineurs non accompagnés, ouais, sont pris normalement en charge par le département.
Par l'aide sociale à l'enfance, voilà, par la métropole du coup sur Lyon.
Oui, et puis,
voilà,
bien sûr.
Effectivement, c'est une compétence
métropole
du département.
Ou département.
Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi certains d'entre eux qui demandent l'asile et qui ont besoin d'un... Voilà, donc il y a aussi des sujets qui se recoupent. Et puis le sujet qui vient en commun, c'est la question de la protection. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont besoin d'une protection. Là, c'est la protection de l'enfance. Mais il y a ce socle commun aussi de personnes qui viennent de leur pays et qui ont besoin d'une protection de la part de l'État, ou même si c'est décliné au niveau du département. Mais voilà. Et donc, du coup, en parallèle de toutes ces activités d'accompagnement des personnes, on a aussi cette activité de plaidoyer. Le plaidoyer, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que souvent on se pose un peu cette question. On entend le plaidoyer comme étant un avocat qui va faire sa plaidoirie devant un tribunal. C'est un peu ça, mais on fait pas de la plaidoirie pour des cas particuliers. Ça se fait dans les centres, on accompagne les personnes, mais on fait de la plaidoirie pour les droits fondamentaux des personnes qu'on accompagne. Donc on fait une plaidoirie pour le droit d'asile, plaidoirie pour le droit des étrangers. Ça veut dire concrètement qu'on a une activité qui est l'activité que je pilote moi personnellement à Forum Réfugiés, qui est d'être en veille permanente sur les politiques publiques, d'analyser ces politiques publiques et de tenter de les influencer à travers des documents de positionnement, des rapports, des publications et des rencontres aussi nombreuses qu'on a avec les décideurs publics, donc les ministères, les parlementaires. On essaye d'être, et on est concrètement un acteur des politiques publiques en matière d'asile, identifié par les décideurs nationaux mais aussi
donc
européens.
Vraiment reconnu officiellement.
Voilà, comme étant... une association qui développe une expertise, des positions et qui a des choses à dire sur ces sujets et des propositions à faire pour améliorer le système d'asile et d'éloignement en rétention aussi.
Moi, je vous propose qu'on fasse une pause musicale et on revient sur le plaidoyer.
Enganar. maintenant.
Donc nous écoutions Nassim Zumbi avec Da Lama au Chaos, la boue au chaos. Et on retrouve notre invité, Laurent Delbos de Forum Réfugiés Cosy. Donc nous en étions arrivés, après avoir détaillé les nombreuses activités de Forum Réfugiés, sur le plaidoyer. Et justement, là, le plaidoyer, c'est de pouvoir aussi, grâce à l'expertise terrain, orienter sur des décisions qui peuvent être prises. Et en ce moment, il y a le projet de loi donc pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile renforcé. Alors, la dernière fois que vous étiez venu ici, dans ces locaux, c'était en 2015, au moment de la réforme du droit d'asile. Alors, est-ce qu'on est sur le même... dans la continuité, enfin, la réforme du droit d'asile, c'était très lié au droit européen. Est-ce que, voilà, ou est-ce que c'est vraiment une initiative franco-française?
C'est une initiative franco-française. C'est-à-dire, contrairement à la dernière fois, effectivement, en 2015, il y avait une obligation du législateur français de mettre en conformité le droit français avec le droit européen. Ce qui, concrètement, dans le projet, dans la loi de 2015, avait abouti à quand même un nombre important d'améliorations du système d'asile. Et la France avait fait le choix à ce moment-là d'harmoniser par le haut, puisque le droit européen laisse quand même des marges de manœuvre au législateur, et le législateur avait plutôt fait des choix plutôt favorables à l'accueil des réfugiés et à la prise en compte de leurs besoins spécifiques. Là, on est dans une logique qui est assez différente, puisque le projet de loi... Pour répondre à votre question, rien n'imposait ce projet de loi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'obligation juridique quelconque. On aurait pu continuer, et c'est même ce qui aurait dû être fait, hein, puisque c'est très peu de recul finalement sur la dernière loi. Il y a encore beaucoup d'ajustements à faire pour que ça fonctionne bien. Et à peine l'encre des décrets, etc., est-elle sèche qu'on arrive déjà avec une nouvelle loi.
Parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. On a l'impression que le discours, c'est on va recevoir moins, mais pour recevoir bien. Alors c'est je caricature beaucoup, mais
du point de vue de l'État, il y a des choses qui fonctionnent pas bien. C'est deux choses. C'est que l'État considère que il y a beaucoup de gens qui viennent dans les dispositifs d'asile et qui ne devraient pas bénéficier de ces dispositifs, et qui, je vous parlais tout à l'heure des ressortissants albanais, il y a tout un tas de l'Albanie aujourd'hui est le premier pays d'origine des demandeurs d'asile en France, et l'État, le gouvernement considère que ces personnes ne relèvent pas de l'asile, ce qui au passage n'est pas tout à fait vrai. Une partie d'entre eux obtiennent une protection, et en tout cas on ne peut pas préjuger de tout ça. Le droit d'asile est quelque chose d'individuel, donc on peut pas, il faut donner les moyens aux personnes de faire valoir leur situation individuelle pour savoir si oui ou non ils relèvent de l'asile. Et c'est ni au gouvernement ni même aux associations comme nous de déterminer ça, c'est aux instances de l'asile en France, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides, et en recours la Cour nationale du droit d'asile. C'est eux qui vont examiner le dossier personnellement et qui vont dire si oui ou non une personne relève des motifs de persécution. En tout cas, ce qui motive le gouvernement, c'est de se dire il faut trouver des moyens pour essayer de réduire un petit peu la pression que mettent sur le système d'asile ces personnes qui arrivent en nombre de pays qui sont aujourd'hui considérés dans le droit français comme des pays d'origine sûre, ce qui implique plusieurs choses dans le droit français, le fait qu'ils soient classés comme pays d'origine sûre, mais ça n'empêche pas cette classification de pays d'origine sûre un examen individuel de la situation.
Oui.
Voilà. Et donc leur projet de loi d'ailleurs ne remet pas ça en cause, hein. Les personnes pourront toujours voir leur situation examinée.
Mais et pays d'origine sûre, c'est décidé au niveau France ?
Au niveau français, ouais. Ouais. Du coup, les dispositions du projet de loi, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, pour vous indiquer un petit peu ce que dit ce projet de loi. Je commence par un point positif. Il y en a peu finalement dans ce projet de loi, mais je commence par celui-là. Il y a dans ce projet de loi une disposition qui vient allonger la durée du titre de séjour qui est attribué aux personnes qui sont bénéficiaires d'une protection subsidiaire. Comme j'ai tout à l'heure, aujourd'hui il y a deux types de protection. Il y a le statut de réfugié qui donne droit à une carte de résident de 10 ans, et la protection subsidiaire qui c'est une protection, mais on rentre dans d'autres motifs de protection, qui aujourd'hui donne droit à une carte de séjour d'un an qui est renouvelable par période de 2 ans.
Et donc à chaque fois il faut refaire un dossier et justifier de sa situation?
Non, il ne faut pas faire un dossier, il ne faut pas rejustifier de sa situation, mais en tout cas il faut quand même aller administrativement à la préfecture pour renouveler son titre, etc. Là, ce que vient apporter le projet de loi, c'est que ces personnes qui obtiennent la protection subsidiaire, ça représentait à peu près, l'année dernière il y a eu 43 000 personnes qui ont eu une protection en France, donc qui ont été reconnues réfugiées ou bénéficiaires d'une protection subsidiaire, et sur ces 43 000, il y en avait 40% qui ont eu le statut protection subsidiaire, donc ça concerne du monde hein, quand même, c'est pas marginal en termes d'impact. Ces personnes-là, si ce projet de loi passe dans ces termes-là, ils auront droit maintenant à une carte pluriannuelle de 4 ans. Dès le début, donc dès qu'ils auront une protection, carte de 4 ans, et au bout des 4 ans, ils pourront transformer ça en une carte de résident de 10 ans. Donc du coup, une sécurisation un peu de leur séjour, donc ça c'est un point important pour l'intégration de ces personnes qui pourront se projeter sur un terme plus long.
Oui, parce que j'imagine que même pour l'emploi, enfin pour plein de démarches,
voilà, c'est plus compliqué. Donc ça c'est le point positif. À côté de ça aussi, il faut noter qu'il y a d'autres aspects de la politique migratoire qui sont positifs. Il y a des réflexions sur la refonte de la politique d'intégration avec des propositions plutôt intéressantes, mais qui ne sont pas dans le projet de loi. Le projet de loi lui-même, du coup, à part cette mesure-là, marque surtout des reculs sur l'aspect asile, le premier volet du projet de loi, et sur le volet immigration irrégulière et éloignement des personnes. Je pense que c'est important ce message-là, parce que quand on examine le texte, c'est vraiment très clair qu'il y a des reculs sur l'asile et des reculs sur l'éloignement. Le texte durcit la situation de toutes ces personnes. Tout à l'heure, vous citiez le titre du projet de loi, qui est pour une immigration maîtrisée et pour un droit d'asile renforcé. En aucun cas, le projet de loi ne vient renforcer le droit d'asile. Donc ça, je pense que c'est important d'avoir ça, parce que le discours du gouvernement, c'est de dire on va mieux protéger les personnes qui méritent une protection, mais ceux qui ne méritent pas, on va être plus dur avec eux pour les éloigner. En réalité, il n'y a pas cet équilibre qui est prôné par le gouvernement. On a vraiment un texte qui vient durcir la situation des demandeurs d'asile et qui vient durcir la situation de ceux qui sont en situation irrégulière. Sur le droit d'asile, pour vous donner quelques exemples de durcissement du texte, le texte prévoit par exemple de réduire le délai de recours pour tous les demandeurs d'asile. Aujourd'hui, une personne qui a un rejet par l'OFPRA a un mois pour faire un recours. Le texte de loi prévoit de réduire ce délai à 15 jours.
Avec tout le souci d'arriver à récupérer son courrier régulièrement. Enfin,
c'est ça, voilà. On rejoint tout ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'accompagnement. Mmh. Beaucoup de gens ne sont pas accompagnés. Donc, rédiger un recours dans un délai d'un mois, c'est déjà compliqué. Deux semaines, ça devient très, très compliqué. Donc, on vient remettre en cause un peu l'effectivité de ce recours et on risque de perdre des gens en route. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont ne pas être en mesure de présenter leur recours. Et c'est potentiellement des personnes qui relèvent d'un besoin de protection, qui auraient été reconnues par la Cour nationale du droit d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a attribué un nombre de... j'ai pas les chiffres là, donc voilà. Mais en tout cas, la Cour nationale du droit d'asile attribue un nombre très important de protections chaque année.
Suite à recours, donc c'est vraiment pas négligeable.
Cette idée de
vous parliez vraiment que la protection soit assurée et qu'on ait vraiment vérifié que la personne.
On passe pas à côté d'un besoin de protection, là on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on risque de passer à côté de besoin de protection, donc on vient pas renforcer le droit d'asile en faisant ça. On vient l'affaiblir et on vient le rendre moins effectif. C'est un exemple.
Et puis ça permet aux avocats aussi peut-être de mieux préparer leur dossier. Hein.
Oui, ça permet, voilà,
d'avoir accès à d'autres documents, de présenter d'autres documents. Puis ça permet aussi à la personne, au demandeur d'asile, peut-être de repenser son témoignage. C'est vraiment pas tout à fait la même chose entre le premier stade, l'OFPRA, et puis la Cour.
Oui.
C'est quand même deux mondes différents, avec donc des statuts différents, et on pourrait penser que le premier stade est peut-être plus vite. Je pense qu'il y a plus de
d'abattage.
Plus d'abattage. Je n'en veux pas aux personnes qui travaillent.
Parce qu'il y a beaucoup de dossiers aussi.
Voilà. Oui. Mais c'est un peu comme le tribunal administratif et les cours d'appel. Des fois, il y a des niveaux de présentation des dossiers qui sont différents.
Oui, oui. Alors après, c'est vrai que ça a beaucoup changé ces dernières années. Avant, il y avait peu de protection à l'OFPRA, il fallait aller systématiquement dans la CNDA pour l'avoir. Là maintenant, l'OFPRA a beaucoup amélioré son instruction, il y a beaucoup plus de protection à l'OFPRA, et la CNDA joue un peu le rôle plus classique d'un appel, c'est-à-dire ça vient en deuxième regard, mais c'est pas le principal. Aujourd'hui, l'essentiel des protections sont attribuées à l'OFPRA et pas à la CNDA, mais c'est quand même un nombre important de protections qui sont attribuées à la CNDA. Et donc à cette mesure, il y a une autre mesure qui est importante, que je vous parlais tout à l'heure de la question des conditions d'accueil. Aujourd'hui, ce qui est prévu dans le projet de loi, c'est que pour les pays d'origine sûre, notamment l'Albanie, mais pas seulement, il y a 16 pays qui sont sur la liste des pays d'origine sûre, ces personnes-là n'auront plus le droit au maintien sur le territoire après le rejet de l'OFPRA. C'est-à-dire que pendant leur phase de recours, ils pourront formuler un recours, mais ils n'auront plus droit au maintien sur le territoire, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus le droit aux conditions matérielles d'accueil, et ils n'auront plus leur attestation de demande d'asile, c'est-à-dire concrètement qu'ils pourront être éloignés du territoire alors même que la CNDA n'a pas statué sur leur demande.
Donc on leur enlève quasiment toutes les capacités de pouvoir faire un recours.
Ce droit au recours, quasiment. Alors la petite nuance, c'est très technique, mais ils peuvent, au moment où on leur notifie une décision d'éloignement, ils peuvent demander la suspensivité du recours auprès du tribunal administratif, donc ils ont quand même une possibilité de demander, mais auprès d'un juge qui est le tribunal administratif, qui n'est pas juge de l'asile, dans des conditions qui font que malgré tout, pendant toute cette période-là, on leur coupe les conditions matérielles d'accueil, etc. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la volonté du gouvernement d'être plus dur avec certaines situations, notamment les pays d'origine sûre. Là, c'est l'exemple type, c'est-à-dire que l'idée du gouvernement, c'est de dire on va attribuer moins de conditions d'accueil à une partie des demandeurs d'asile qui viennent de pays d'origine sûre. Donc on en revient aussi à la situation tout à l'heure, un centre de rétention. Là, on pourra à l'avenir, avec cette situation-là, arriver à des personnes qui sont en centre de rétention et qui ont toujours leur recours qui est examiné en cours d'examen par la Cour nationale du droit d'asile. Les personnes qui pourront même être éloignées du territoire alors même qu'ils ont encore leur recours en cours d'examen. Ça, c'est quelque chose qui était déjà en vigueur avant 2015. Donc tout à l'heure, vous me parliez de 2015. C'était une des principales avancées de la loi de 2015, c'est de mettre toutes les procédures sur un pied d'égalité. Tout le monde a droit aux mêmes conditions matérielles d'accueil, tout le monde a droit au même droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la décision définitive de la CNDA. Et là, retour en arrière et recul important avec ce projet de loi sur cette disposition.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce droit d'asile renforcé, donc pour reprendre le titre de la loi, c'est en gros pas pour tout le monde, qu'il y a un espèce de tri. On parlait aussi de la question du mérite, mais pas tous ceux qui pourraient y accéder.
Quel est l'argument du gouvernement pour durcir cet accès? C'est pour éviter quoi, que les personnes qui, sous couvert de demande d'asile, soient plutôt des migrants économiques?
Oui, c'est un peu ça l'idée qui motive cette décision. Mais ce qui est important,
est-ce que ça peut passer devant le droit européen?
Alors oui, parce qu'il y a justement cette possibilité de saisir un juge pour demander la suspensivité du recours. Et donc ce que dit le droit européen, c'est le droit européen dit pas vous êtes obligé d'avoir une suspensivité automatique du recours, mais il faut avoir une possibilité de saisir un juge pour demander la suspensivité du recours. Donc on est conforme au droit européen en faisant ça, mais on prend, c'est ce que je disais tout à l'heure, on prend le niveau bas du droit européen, alors qu'avant, en 2015, on était aussi conforme, mais en se disant on va être conforme en mettant tout le monde sur le pied d'égalité. Donc là, on était aussi conforme, on l'est encore actuellement. Mais on a des marges de manœuvre dans le droit européen. On a pris la marge de manœuvre la plus favorable en 2015, on prend la moins favorable aujourd'hui en 2018. Pour répondre à votre question sur effectivement, on veut se dire qu'il y a des personnes qui relèvent a priori moins de l'asile. Et c'est vrai, hein, quand on regarde les pourcentages des demandeurs d'asile albanais, c'est pas les mêmes qu'un demandeur d'asile qui vient de Syrie, c'est une réalité. Mais malgré tout, comme je disais tout à l'heure, il y a une chose à prendre en compte, c'est qu'il y a des demandeurs d'asile qui viennent de ces pays d'origine sûrs qui ont des besoins de protection. Devant la Cour nationale du droit d'asile en 2016, c'est les dernières statistiques détaillées qu'on a, il y a près de 900 personnes enfin près de 900 décisions même, donc ça recoupe encore plus de personnes qui viennent de pays d'origine sûrs et qui ont obtenu une protection devant la Cour nationale du droit d'asile. Donc ces 900 dossiers d'asile qui ont été acceptés par la CNDA avec cette nouvelle loi, ça fait des personnes qui potentiellement auraient pu être renvoyées dans leur pays et donc renvoyées vers leurs persécuteurs et vers les craintes de persécution qu'ils évoquent sans avoir eu ce deuxième regard et cette protection. Donc c'est pas négligeable, hein, c'est potentiellement renvoyer des personnes vers des situations d'insécurité. Et l'autre point qui est important, c'est qu'effectivement il y a cet argument sous-jacent de se dire il faut voir ceux qui relèvent de la protection des autres, etc. Mais par exemple délai de recours, je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir quelqu'un qui a un besoin de protection évident, qui vient d'Érythrée, de Soudan, d'Afghanistan, de Syrie, et qui est un homme seul, qui n'a pas été orienté vers l'hébergement et qui n'aura pas le temps de faire son recours dans les 15 jours et qui va être affecté. Donc ces dispositions en réalité, elles affectent tous les demandeurs d'asile et ça constitue une baisse des garanties procédurales pour l'ensemble des demandeurs d'asile sur tout un tas de disposition. Il y a plein d'autres petites choses, des petites baisses de garanties procédurales comme ça sur le développement par exemple de la vidéo audience. Donc on va permettre à la Cour nationale du droit d'asile de faire de plus en plus de jugements à distance par vidéo. C'est aussi une baisse importante des garanties procédurales, hein. C'est pas la même qualité de la justice qui est rendue à travers un écran ou à travers une cour. Donc tout ça là, pour le coup, ce qui motive le gouvernement, tout ça, c'est d'aller plus vite. Et là, pour nous à Forum Réfugiés, on s'oppose à tout ça parce que ce qu'on a toujours dit, et c'était le discours de l'ensemble des acteurs de l'asile, c'est de dire c'est vrai, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, les procédures d'asile étaient trop lentes et tout le monde plaidait pour que ça aille plus vite parce que d'attendre sa réponse pendant 4 ans, 5 ans, c'est le cas avant, c'est acceptable pour personne. Mais on peut aller plus vite sans aller trop vite, c'est-à-dire qu'il y a une limite, c'est qu'il ne faut pas que cette rapidité se fasse au détriment des garanties procédurales, parce que sinon voilà, on va passer à côté de besoin de protection. Donc si on va vite mais qu'on passe à côté de besoin de protection, ça ne sert à rien, on n'aura pas, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de l'efficacité d'un système d'asile. Là, la logique du gouvernement est un peu trop de se dire un système il est efficace quand il va vite, ça ne doit pas être le seul indicateur d'un système d'asile efficace, et aujourd'hui c'est un peu la seule logique qui guide ce projet de loi, c'est aller vite.
Et puis aussi, là, vous parliez que il y avait la question de l'engorgement. C'est aussi se poser la question si on doit dimensionner le nombre de demandeurs d'asile à nos capacités d'accueil ou le contraire.
Exactement, c'est-à-dire que là, la logique, ça pourrait être de dire on fait l'effort pour permettre à tout le monde d'être accueilli. Là, la logique, elle est inverse, c'est de se dire on va réduire le nombre de personnes éligibles à ces conditions d'accueil. Et puis, comme ça, dans quelques années, on pourra dire, ben voilà, tous ceux qui sont éligibles sont hébergés. Certes, mais on a qu'à déclarer dans la loi que de plus en plus de personnes n'étaient pas éligibles à cet hébergement, mais ces personnes sont là malgré tout. Et concrètement, en plus, au quotidien, je pense que personne n'est gagnant dans tout ça. C'est pas qu'une question idéologique, c'est aussi qu'on va être avec des situations de personnes, je disais, le recours n'est pas suspensif. Donc les personnes seront pas hébergées, etc. Mais les personnes vont rester malgré tout pendant leur recours. Donc on va avoir des personnes qui sont dans des camps, dans des situations de précarité, etc. et qui n'auront pas ces droits-là. Donc on va plutôt multiplier les situations. Donc pour l'État, on va avoir moins d'hébergements à fournir, moins d'allocations à fournir, effectivement, ça va se voir dans les statistiques. Mais après, dans la situation quotidienne sur le terrain, on va avoir de plus en plus de personnes qui sont, du coup, privées de ces conditions d'accueil et qui vont se retrouver dans une situation de précarité.
Oui, comme on a pu s'inquiéter avec la circulaire du ministre de l'Intérieur de décembre, qu'on avait l'impression qu'on faisait un peu le contrôle dans les structures d'hébergement, à se dire ça peut aussi faire qu'on va avoir peur d'aller dans les structures d'hébergement et qu'on va préférer dormir dehors.
Oui, alors sur ce texte, deux petites réponses rapides. Il y a eu une décision du Conseil d'État qui est venue très largement anéantir un peu les effets de cette circulaire, donc qui devient presque inapplicable, en tout cas dans le volet qui suscitait le plus de craintes parmi les associations. Et nous, sur ce point-là, le point de vue de Forum Réfugiés, nous on gère pas de centre d'hébergement d'urgence, droit commun, donc c'est des questions sur nous on se prononce vraiment sur les dispositifs sur lesquels on sait précisément sur le terrain ce qui se passe, quelles vont être les influences des politiques publiques. Donc sur ce sujet-là, on a suivi ça d'un petit peu plus loin, mais malgré tout, le lien avec tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est aussi que si à un moment donné on fournit l'hébergement suffisant pour tous les demandeurs d'asile, etc., on n'aura pas à se poser la question de savoir qui est dans l'hébergement d'urgence de droit commun. Donc ça, c'est parce qu'il y a du dysfonctionnement du système d'asile que on doit ensuite envoyer des brigades dans les brigades mobiles dans les lieux d'hébergement d'urgence de droit commun pour dire est-ce que dedans il y a des personnes qui sont demandeurs d'asile, est-ce qu'il y a des personnes qui ont le statut de réfugié, est-ce qu'il y a des personnes qui ont été déboutées. On fait tout ce travail-là parce que derrière il y a aussi un manque de place dans le dispositif spécifiquement dédié aux demandeurs d'asile.
Donc en fait, on apporte des contraintes supplémentaires et à des personnes qui sont fragilisées. Et par rapport à cette fameuse circulaire, on apportait aussi des conditions, humaines, qui face encore à des personnes qui pouvaient être, qui pouvaient avoir connu des violences policières, etc., etc. Donc on faisait porter aux populations déjà fragilisées du fait de leur migration subie, on leur fait porter encore des contraintes supplémentaires. C'est-à-dire on leur fait porter à cette population déjà fragilisée des contraintes supplémentaires. Alors qu'on pourrait augmenter nos capacités effectivement de traitement des dossiers.
Ouais, oui. Et du coup, sur ce projet de loi, parce que je vois que le temps passe et qu'il y a un point très important que je voulais souligner, c'est sur le volet éloignement-rétention. Et c'est un des gros points d'inquiétude de l'ensemble des acteurs associatifs qui sont en centre de rétention et qui voient au quotidien qu'est-ce que c'est que d'enfermer des personnes pendant une durée longue. C'est le projet de loi prévoit d'allonger la durée maximale de rétention, qui aujourd'hui est de 45 jours. Le projet de loi prévoit de la passer à 90 jours, voire même exceptionnellement jusqu'à 135 jours. Pour vous donner une idée, cette durée de rétention, elle n'a fait qu'augmenter depuis sa mise en place au début des années 80. Au départ, on était sur 3 jours, 7 jours, 12 jours, 32 jours, 45 jours, sans que cet allongement de la durée de rétention ne permette d'éloigner davantage de personnes. C'est-à-dire ce qu'on a constaté, on est passé de 32 jours à 45 jours en 2011. Entre le 32 jours et 45e jour, on éloigne. Si les personnes ne sont pas éloignées dans les 30 premiers jours, ils ne sont plus ensuite. Donc on garde. Pourquoi ils ne sont plus ensuite ? Parce que si on n'a pas réussi à mettre en place toutes les démarches avant, notamment les démarches auprès des autorités des pays d'origine, puisque souvent il y a cet enjeu d'obtenir des laissez-passer pour des titres de voyage pour que les personnes puissent rentrer dans leur pays, si on n'a pas réussi à le faire au début, on n'arrive pas à le faire. Plus tard. Donc aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est du durcissement pour afficher un durcissement, mais c'est même pas efficace en matière d'éloignement. On va juste enfermer des personnes plus longtemps.
Ça demandera plus de place dans le centre de rétention, ouais. Alors qu'il vaudrait mieux les faire.
Alors il vaudrait mieux que ça tourne finalement.
Il vaudrait mieux faire des places d'accueil de demandeurs d'asile.
Hein. Et puis même en termes d'efficacité, les personnes vont rester plus longtemps, donc on va éloigner moins de personnes. Mm-hmm. Pour vous donner un chiffre qui est marquant, là aussi 2016, parce qu'on n'a pas de statistiques plus récentes, en 2016, il y avait dans les 45 jours, il y avait à peu près 47% des laissez-passer consulaires, des demandes de laissez-passer qui ont obtenu une réponse positive dans ces 47 jours, donc 47%. Vous avez à peu près et à peu près 53% qui ont pas été obtenus dans ces 45 jours. Et le message du gouvernement, c'est de dire on a besoin de ce temps supplémentaire pour obtenir davantage de laissez-passer. Sauf qu'en réalité, quand on regarde le détail des statistiques, on se rend compte que ce qui s'est passé après les 45 jours, c'est qu'il y a eu soit des refus, donc là qu'on garde les personnes 45 jours, 90 jours ou 200, 300 jours, peu importe, dès lors qu'on a un refus, on a un refus. Donc la personne ne pourra pas rentrer dans son pays d'origine, ou une absence de réponse, c'est-à-dire que les consulats, les autorités diplomatiques n'ont jamais répondu à la demande de la France. Mais même, elles n'ont pas répondu ni au bout de 90 jours, ni au bout de 100 jours. Le nombre de réponses qui ont été obtenues après 45 jours de la part du consulat, ça représente 3% des demandes, c'est-à-dire que ça représentait 170 personnes en 2016 seulement. Si on avait allongé la durée de la rétention, on aurait pu éloigner en 2016 170 personnes en plus. Donc c'est-à-dire très très peu de personnes éloignées en plus, et par contre des conséquences importantes, puisqu'on aurait, et c'est l'avenir, j'espère pas, mais en tout cas qui se présente avec ce projet de loi, c'est qu'on va enfermer massivement beaucoup plus de personnes pour finalement en éloigner un tout petit peu plus, mais vraiment vraiment très très peu en plus, mais par contre des milliers de personnes qui vont être enfermées là sur une durée qui fait 3 mois, 4 mois, et sur des locaux qui sont pas adaptés, sur des conséquences pour les personnes psychologiques, etc. Nous on le constate en centre de rétention tous les jours, plus la rétention dure, plus la situation des personnes se durcit et plus les personnes sont dans une détresse qui amène aussi des actes d'automutilation, des tentatives de suicide et parfois même des suicides. On a eu une personne qui s'est suicidée récemment au centre de rétention à Marseille où on est présent. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes en termes de respect des droits des personnes et sur lesquelles on aimerait et on va plaider pour ça, pour que le gouvernement recule sur ces sujets-là.
Et ce projet, alors c'est un projet, il n'est pas encore voté. Donc est-ce qu'il y a des moyens, que ce soit forum de réfugiés ou même aussi en tant que citoyen, pour encore le voir bouger ou interpeller ces députés? Je sais qu'il y a eu une manif le 10 mars dernier.
Oui. Effectivement, il y a beaucoup de mouvements divers et variés qui se montent pour s'opposer à ce projet de loi. Nous, à Forum Réfugiés, on est dans un plaidoyer qui est un plaidoyer un peu technique et du coup un plaidoyer un peu de l'ombre, on va dire, qui n'est pas forcément visible, mais on est régulièrement auprès des députés. Cette semaine, j'étais à Paris, la semaine dernière encore, auprès de la Commission des lois de l'Assemblée nationale pour expliquer tout ce que je vous dis là en détail aux députés, auprès des ministères, etc., pour essayer de sensibiliser les députés qui vont voter cette loi sur ce sujet-là. On espère que ça va porter ses fruits. Hein. Malheureusement, ce qui est compliqué, c'est qu'une fois que le projet de loi est mis sur la table, les députés, en général, votent les grandes lignes du projet de loi, alors que là, il y a peu de choses à garder, malheureusement, ce projet de loi. Donc, on espère que, malgré tout, il va y avoir des modifications, et on reste quand même positif sur ça. Mais voilà, ce qui peut être utile de la part de tout le monde, c'est à la fois déjà de bien se renseigner sur ce projet de loi. On dit souvent ça, mais c'est vrai que souvent, on lit à droite à gauche les choses, mais c'est important de bien savoir de quoi on parle et de bien avoir des arguments solides pour s'opposer à ce projet de loi, et puis ensuite de participer à différents mouvements, soit de saisir effectivement les députés, soit de relayer effectivement toutes ces informations qui peuvent être diffusées par toutes les associations qui travaillent dans ce domaine. Moi, je représente Forum Réfugiés, mais évidemment on n'est pas les seuls à travailler dans ce domaine, et il y a tout un tas d'acteurs associatifs qui produisent du plaidoyer, qui organisent des manifestations comme vous parliez tout à l'heure. Donc il faut suivre tout ça de près. Du coup, je termine pour vous dire que si vous voulez vous renseigner, je fais un petit peu de promo sur Forum Réfugiés. On a une newsletter, une lettre d'information mensuelle. Donc, c'est le moyen aussi de se tenir informé de tout ça. On fait des articles sur tous ces sujets pour information grand public, on va dire. Donc, c'est sur notre site forumrefugies.org. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Ce sera une façon de recevoir de l'information et de vous tenir informé sur nos positions et notre analyse de toutes ces questions.
Bien, merci. Le temps passe. Et donc, on se retrouve dans 2 semaines et on vous laisse tout de suite avec le Canu Info.